9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
La presse écrite est en crise, je n'apprends rien à personne, et pourtant un lancement semble résister à la crise. Ça démarre comme un Astérix. L'hebdomadaire Franc-Tireur,
c'est nous, le village gaulois,
célèbre sa première année d'existence. Ce journal est lancé par Raphaël Antoven, dont vous venez d'entendre la voix, Christophe Barbier et Caroline Fourest. Pas de photo, du dessin de presse.
Éric de Couty au départ.
Éric de Couty, 8 pages seulement avec une grande enquête et des articles plus courts. Voici ce que propose Franc-Tireur, le tout pour 2 euros, de grandes signatures, pas de publicité. Et voici que sort leur premier hors-série, comme pour fêter ce premier anniversaire. Avec nous, donc, Raphaël Antoven, bonjour.
Bonjour.
Essayiste, écrivain, professeur de philosophie et donc éditorialiste de ce journal Franc-Tireur. Les magazines généralistes, c'est pas ce qui manque, et tant mieux. On sait que le prix du papier a flambé, que la presse écrite n'est pas au mieux de sa forme. Quel fut le point de départ de Franc-Tireur ?
Le sentiment qu'il manquait quelque chose. Qu'il manquait à la presse un lieu qui fut à la fois républicain, voltairien, rationnel, attaché au dialogue, et pas bégueule au sens où on aime bien se battre, si vous voulez. C'est toute la particularité du journal. Il défend le débat, il aime bien la bagarre. Et le journal est né de ça. Et il se trouve qu'il n'y a aucune étude de marché, rien du tout. Hein. C'est juste qu'on avait l'intuition que ça correspondait, il y avait un lectorat pour ça, que ça correspondait à un désir et qu'il fallait faire le journal dont on avait envie. C'est ce qu'on a fait.
C'est aussi une économie douce, 8 pages seulement avec une grande enquête, des articles courts, pas de photos, non. Du dessin de presse, du papier non glacé, du papier, je ne connais pas le nom, papier normal.
Ouais.
On pense évidemment au canard enchaîné. Quelle différence avec ce grand ancien ?
Ouf. Toutes les différences du monde. Le canard, c'est le canard.
Ouais.
Le canard, c'est le canard enchaîné. C'est tout à fait autre chose.
8 pages d'infos avec de l'humeur.
C'est vrai, vous avez raison. Vous avez
ça
raison.
Ressemble beaucoup. Il y a dans les deux cas.
Il y a plusieurs oncles, plusieurs parrains mentaux à la création de ce journal. Il y a le 1 aussi d'Éric Fotorino, bien sûr. On y a pensé beaucoup sur la façon dont le journal s'ouvre, dont il est organisé. Le canard, bien sûr. Mais d'autres aussi. On avait plein de journaux en tête, mais en revanche, aucun journal ne ressemble à celui-là, parce qu'il avait ce tropisme républicain très enraciné, qui me paraît important.
Il n'y a pas de publicité dans Franc-Tireur,
non.
Je l'ai dit. Les signatures sont souvent des plumes connues, voire très, très, très connues. Il y a par exemple François Hollande qui écrit un papier sur la relation France-Allemagne.
Oui.
Ça coûte cher d'avoir François Hollande parmi ses collaborateurs.
Il est à la pige, pas du tout. Il est à la pige comme tous les pigistes. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient sur les questions économiques, François Hollande, dans notre journal. L'enjeu était de l'entendre sur ces questions. Après tout, c'était son premier métier. Et il a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est très intéressant aussi. Puis c'est amusant
amusant. Il n'oublie jamais de faire des blagues,
alors,
François Hollande.
Il n'oublie pas de faire des blagues. Et puis surtout, c'est intéressant, je trouve, moi, après, à plus longue échéance, on verra ce que ça donne, mais de récupérer quelqu'un qui est moins soucieux de pouvoir et dont la parole se libère lentement, je pense.
Là, son papier, ça concerne la France et l'Allemagne, leurs divergences et comment le couple franco-allemand peut repartir sur de bons rails. Ce qui est hallucinant, c'est sa phrase de conclusion. Quand un couple se déchire, c'est l'intérêt des enfants qui permet de ramener chacun à la raison.
Oui.
Donc il y a une petite référence à Provi, plus un petit tacle contre Laurent Fabius.
Peut-être, c'est possible,
peut-être.
C'est possible. Je vous en laisse l'interprétation, invitez-le pour en parler.
Vous ne vous souvenez pas de ce
très,
qu'avait
très
dit
bien,
Laurent Fabius ?
Qui gardera les enfants, tu parles bien sûr.
Quand Ségolène Royal
s'était présenté à la candidature, Laurent Fabius avait dit « Qui gardera les enfants ?» Ce n'est pas la phrase la plus glorieuse de sa carrière.
2 euros le journal, ce hors-série que vous payez 8,50
euros.
Page 7 de ce numéro, Caroline Fourest salue vos équipes par un petit mot et donne les chiffres de vente. Vous les connaissez ?
Pas exactement. Je sais qu'ils sont bons et je ne veux pas avoir le détail. Enfin, vous allez me le donner, mais je n'ai jamais cherché à avoir le détail. Ça me parasite le travail.
18 000 exemplaires vendus par abonnement, parfois 20 000, 30 000 ventes en kiosque. Vous êtes dans les clous de ce que vous vous étiez fixé quand vous avez lancé le journal ?
On est largement au-dessus de ce qu'on nous avait donné comme limite inférieure. Très largement au-dessus. Le prix du papier fait que les choses sont difficiles en termes budgétaires pour tous les journaux qui osent paraître dans les kiosques. Mais enfin, on est largement au-dessus de ce qu'on nous avait demandé. Et ce qui est amusant et très intéressant, c'est que nous n'avons fait pour cela qu'être nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'écrivons que ce que nous avons envie d'écrire. C'est ça qui est merveilleux. C'est un journal où vraiment chacun est sommé d'être lui-même. Et c'est en étant nous-mêmes, c'est-à-dire en ne faisant aucun effort pour dissimuler ce qu'on pense, tamiser ce qu'on pense, en étant juste nous-mêmes, clairement, que le journal fonctionne. Ce qui fait de cet endroit une abbaye, quoi.
Mais alors il faut batailler parce que le sous-titre de Franc-Tireur est celui-ci. La raison est un combat.
Oui.
Expliquez-nous. Bah, en quoi la raison est-elle un combat?
C'est parce que la raison, aujourd'hui, fait l'objet d'une récusation. Si vous voulez, il y a 30 ans, on discutait, vous discutiez avec un marxiste, vous discutez argument contre argument, rationalité contre rationalité. Aujourd'hui, vous êtes face à des gens qui récusent la rationalité. C'est-à-dire, quand vous vous adressez à un antivax et que vous raisonnez un peu, que vous lui donnez des chiffres, il vous accusera, avec vos chiffres, de vouloir l'écraser, de vouloir l'oppresser. C'est-à-dire qu'il est fait à la raison un procès d'intention dont elle ne peut pas sortir, dans la mesure où, chaque fois que vous dites que 2 et 2 font 4, on vous accuse de conservatisme. Donc vous êtes obligé, quand vous utilisez la raison, quand vous vous servez de la raison, de vous défendre désormais. C'est tout le paradoxe. C'est le paradoxe de l'époque et c'est le paradoxe du journal. Encore une fois, on est des voltairiens. On est là pour discuter, on adore le dialogue, mais en même temps, il ne faut pas nous chercher, si tu veux. Voilà, on relève de ces deux dimensions.
Et je fais le parallèle avec il y a 30 ans. Il y avait parfois de la mauvaise foi chez les marxistes, mais il y a 30 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas.
Il y a 30 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas, et donc l'identitarisme ne recevait pas le coup de main prodigieux d'un dispositif qui vous permet à jamais de rester au milieu de vos certitudes. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'ouverture, c'est la possibilité d'une clôture éternelle. Vous pouvez, avec un réseau social, vous en tenir à ce que vous croyez et prendre ce que vous croyez pour la vérité. C'est en ça que la raison est si difficile d'emploi. La raison, c'est le terrain commun. Et les réseaux sociaux disloquent le terrain commun tout en se déguisant en espace ouvert.
Alors, je l'ai dit, il y a ce numéro hors série qui vient d'être publié. D'hier à aujourd'hui, le combat des lanceurs d'alerte. Pourquoi ce choix et que raconte Franc-Tireur que les autres ne disent pas? Réponse dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Raphaël Antoven, éditorialiste, l'un des fondateurs de Franc-Tireur, l'hebdomadaire qui fête sa première année d'existence et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque non. Vous l'avez dit, les chiffres étaient bons. Vous sortez votre premier hors-série, intitulé « D'hier à aujourd'hui, le combat des lanceurs d'alerte ». C'est très intéressant, les lanceurs d'alerte, mais pourquoi ce sujet en numéro 1?
Parce que j'étais obsédé par le personnage de Cassandre. Cassandre, c'est la fille du roi de Troie, et c'est celle à qui Apollon crache dans la bouche, et la condamne à voir l'avenir sans jamais être entendue. J'étais obsédé par l'idée de ces gens qui sont clairvoyants, qui voient tout, et qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas.
Attendez, je vous interromps. Cassandre, c'est pas des gens, c'est un personnage mythologique.
Ah non, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire quiconque avait une vérité à dire, Galilée, Galilée face à l'Église, Montaigne face à l'islamisme, Jaurès face à l'approche de la Première Guerre mondiale, enfin qu'il pressentait, à tous les siècles, Camus et la bombe atomique, Montesquieu et la bombe atomique déjà au XVIIIe siècle. Bref, ce sont les lanceurs d'alerte se sont très souvent retrouvés dans la position de Cassandre. Voltaire, au moment de l'affaire Calas, il a dû faire un vacarme épouvantable pour qu'enfin il soit entendu. C'est-à-dire que la condition du lanceur d'alerte, c'est de voir ce que les autres ne voient pas et de dire ce que les autres n'ont pas envie d'entendre. C'est Cassandre.
Vous citez plusieurs lanceurs d'alerte historiques dans votre texte en quatrième de couve, de Cassandre, vous l'avez dit, à Tocqueville, en passant par Greta Thunberg ou Julian Assange. Et vous avez cette formule, impuissant mais pertinent, les lanceurs d'alerte donnent à comprendre l'événement qu'ils ne savent pas éviter.
Oui.
En quoi le rôle d'un lanceur d'alerte est-il vain? En quoi le rôle d'un lanceur d'alerte n'est-il pas vain?
Le rôle d'un lanceur d'alerte est vain dans la mesure où vous avez un texte de Montaigne, par exemple, qui décrypte l'islamisme, l'arnaque de l'islamisme, pas de l'islam, de l'islamisme, c'est-à-dire la promesse d'une partouze éternelle une fois qu'on a tué pour ça. Bon, il est le premier à dire ça, c'est le premier, il le décrypte, il parle des glues que propose Mahomet. C'est un texte qui aujourd'hui encore est utile, qui aujourd'hui encore sert à toute une littérature républicaine qui permet de comprendre les choses, mais c'est un texte qui en lui-même n'a eu aucun effet. Le propre des comme Raymond Aron, quand il plaide pour le réarmement de la France dans les années 30 face à l'Allemagne, il n'est pas entendu.
Oui, il y a aussi des lanceurs d'alerte dont, dont ce qu'ils ont dit a été suivi d'effet. Exemple, la personne qui a révélé toutes les photos qui se passaient dans la prison d'Abu Ghraib, les Américains l'ont racheté.
Voilà. Chelsea, alors c'est là que le hors-série est en deux temps. Il y a les trois premières parties qui concernent vraiment deux millénaires de lanceurs d'alerte qui font ce qu'ils peuvent. Et puis, il y a le 21e siècle où les lanceurs d'alerte se voient désormais nantis par les réseaux sociaux, de la possibilité de se faire entendre, ce qui pose d'autres problèmes. Ce qui pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que tant qu'ils étaient inaudibles et pertinents, bah, d'une certaine manière, ils ne changeaient rien, mais on les lisait, alors que maintenant, ils sont très audibles, mais tous ne sont pas pertinents, ça pose d'autres soucis.
Et puis parfois, il y a des fausses alertes.
Attention, il y a des lanceurs d'alerte.
Attention, il y a des puces 5G dans le vaccin.
Alors voilà, c'est que vous avez des gens alertes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se vivent comme des lanceurs d'alerte uniquement parce qu'ils disent n'importe quoi, ou parce qu'ils ont le sens sentiment qu'on leur ment. Vous avez des gens qui sanctifient leur méfiance, qui sacralisent leur méfiance au point de croire qu'ils sont lanceurs d'alerte dès qu'ils ne croient pas ce qu'on leur raconte. Bon, c'est un syndrome démocratique, c'est un problème démocratique, n'est pas lanceur d'alerte qui veut.
Ce week-end, vous avez tweeté en réponse au groupe Dernière Rénovation. Alors, je rappelle qui est ce groupe, un groupe militant qui prétend être, je les cite, « la dernière génération capable d'empêcher un effondrement sociétal ». On les voit parfois qui bloquent le périphérique ou d'autres voies rapides pour attirer l'attention. Vous avez tweeté ceci « Dernière Rénovation ne cherche qu'une seule chose, qu'un conducteur craque et leur roule dessus. Ouais. L'unique objet de ces blocages absurdes est d'avoir la vidéo d'un martyr, d'un défenseur de la planète qui se fait rouler dessus. Ils nous pourrissent la vie pour obtenir leur mort ». Au-delà de ça, leur combat est peut-être juste.
Mais ce n'est pas la question. Je ne conteste pas le combat. Je dis juste que les méthodes sont celles de la communication. Et quand vous luttez dans ces cas-là, vous savez, dans un combat, c'est comme quand les gens s'engueulent. Le gagnant, c'est celui qui a pris le plus de coups, pas celui qui en a donné le plus à l'ère démocratique. Eh bien, aujourd'hui, dans un combat public comme ça, le gagnant, c'est celui qui a le plus de blessés. Donc évidemment, avoir un mort, c'est tomber sur la case départ du Monopoly. C'est ça qu'ils recherchent. C'est pour ça, par exemple, que les étudiants qui avaient été évacués de Tolbiac voulaient à tout prix que la police ait tué quelqu'un. Ils avaient réclamé à la PHP un mort qu'on ne trouvait pas. Et ils étaient allés demander la vérité, c'est-à-dire la vérité qui les arrange. Dans le combat, dans un combat démocratique à l'ère de la communication, de l'hypercommunication, vous recherchez le martyr. Vous recherchez le martyr, et c'est logique. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont là. Leur rêve, c'est quoi? C'est que l'un d'eux, sans mourir, allez, se fasse au moins un peu rouler dessus et que la vidéo devienne virale, c'est sûr.
J'arrive à la dernière partie de ce franc-tireur. Il y a ce personnage, Edward Snowden.
Ouais.
Edward Snowden a dénoncé les agissements de la NSA américaine.
Ouais.
Il a trouvé refuge en Russie.
Ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. Il est d'abord parti à Hong Kong.
Mais maintenant, il est en Russie.
Oui.
Et il dénonce beaucoup de choses, mais rien sur l'État poutinien. J'ai posé la question comme si vous étiez avec votre fils ou votre fille de 6 ans. Snowden, c'est un gentil ou c'est un méchant?
Ah, mon chéri, Snowden c'est un idiot utile. C'était un gentil, c'est devenu ce qu'on appelle un idiot utile. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, avec un grand courage, a dénoncé des infamies, ce qu'on appelait les grandes oreilles de la NSA. Des infamies, des choses épouvantables, et a permis la diffusion de secrets qui sont très utiles. Et puis, c'est quelqu'un qui est allé chercher la liberté en Russie, c'est-à-dire, et qui, depuis qu'il est en Russie, a prédit que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine et n'a plus fait savoir son opinion depuis 9 mois que les Russes massacrent allègrement les Ukrainiens. Donc c'est un lanceur d'alerte devenu un idiot utile.
Franc-tireur a été créé une année d'élection présidentielle qui se présentait comme le lieu de toutes les interrogations, les contradictions politiques. Maintenant que l'élection présidentielle, enfin la campagne est derrière nous, quoiqu'elle arrive déjà au grand galop alors que c'est dans 4 ans, quels vont être les sujets qui vont, entre guillemets, remplacer la politique?
Je ne crois pas qu'on puisse remplacer vraiment la politique. En fait, le journal, pour être tout à fait honnête avec vous, le journal a été créé sur cette ligne voltairienne, mais concrètement aussi, politiquement, avec l'intention très ferme de lutter contre les extrêmes. Voilà, c'était le but du journal, c'était la raison d'être. Et compte tenu de la mandature dont on a hérité et de la façon dont le Parlement est constitué, si vous voulez, le combat contre les extrêmes ne se termine pas avec la fin des élections. Donc on n'en a pas fini. Et puis surtout la politique, ça se fait hors période électorale aussi. C'est pas parce qu'on ne change pas de pouvoir qu'on ne discute pas. C'est là qu'on intervient. C'est à l'échelle de l'opinion, en deçà de la loi, enfin à l'abri de la loi, dans le respect de la loi, mais en revanche avec des arguments où on met les pieds dans le plat.
Franc-tireur, c'est également une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on y trouve qu'il n'y a pas dans le journal?
Des entretiens dans la longueur. Vous avez dans Franc-Tireur des entretiens, je trouve, de très grande qualité, qui sont conduits par Yasmina Jaffar notamment, et puis par beaucoup de nous.
Là, je dois le dire, il y a l'interview du meilleur joueur d'échecs de tous les temps, Garry Kasparov. Ouais. Kasparov qui est aujourd'hui le plus grand opposant à Poutine.
Absolument, ça c'est Simone Rodin qui a fait cet entretien qu'on a publié. Et Garry Kasparov, c'est très intéressant, Garry Kasparov, parce que Garry Kasparov a une analyse de Poutine, il le tient pour un joueur de poker et non pas un joueur d'échecs. C'est un joueur de poker qui bluffe assez mal, dit-il. Et c'est très juste comme lecture, je trouve, et c'est un entretien passionnant. Non, c'est vraiment...
Pardon, j'ai fait une incise après une question sur YouTube. Est-ce que l'interview de Kasparov est sur votre compte YouTube?
Non, pas celle-là, à ma connaissance. Non, pas celle-là, parce qu'elle a été réalisée dans des conditions qui ne permettaient pas qu'on la filmât. Mais en revanche, il y en a d'autres qui s'y trouvent. Et en vérité, tous les contenus sont dans la longueur. C'est-à-dire qu'on a accès tout simplement à plus de matière. C'est aussi simple que ça.
Je vous remercie, Raphaël Antoine. Je voulais faire une vanne, mais je me suis dit qu'elle était hors série. Je rappelle que ce journal Franc-Tireur et que son magazine hors série sont disponibles en librairie. Merci beaucoup
d'avoir
été
avec
nous ce matin. Dans un instant.